Paris, vendredi 2 février.
Ça va barder, claironnent les musiciens pour annoncer leur prochain gig. Quand j'entends cette expression, j'entends « barde » et je pense au barde Assurance Tourix dans Astérix. Ça va barder, ça va chanter, ça va balancer de la poésie. Pas vraiment, non. Ça va barder ne renvoie pas à la musique, mais à une expression martiale. À la fin du 19e siècle, dans le jargon de l'armée, barder signifie que l'on est obligé d'accomplir une corvée, un travail pénible que personne n'a envie de faire. Un barde, c'est une civière. Et transporter les blessés était toujours une tâche ardue. En réalité, donc, on dit « ça va faire mal », « ça va évacuer des blessés hors du champ ». Et ce mal serait censé nous faire du bien ? Pourquoi enveloppe-t-on toujours la musique de violence pour dire qu'elle va être puissante ? La force ne peut-elle exister sans douceur ?
La carte et le territoire.
Un podcast de Clémence Bayot d'Estivaux.
Inès Coville.
Bonjour et bienvenue dans La Carte et le Territoire, le podcast consacré aux acteurs et actrices du monde de la musique et à leur relation au territoire. Aujourd'hui, je reçois Inès Coville. Bonjour Inès.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir, Clémence.
Inès, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je vais te demander de nous raconter ce que tu fais dans la vie.
La fameuse question compliquée. Eh bien, je suis artiste. Je pense que c'est le mot un peu parapluie qui correspond mieux. Et ensuite, je peux détailler. J'ai une pratique de l'écriture, je suis musicienne, je fais de la contrebasse et je chante. Et je fais aussi de la photo et de la vidéo. Et puis, j'ai une grande proximité avec le spectacle vivant et le théâtre, parce que je collabore et je travaille régulièrement avec des compagnies. Voilà, c'est un peu la longue liste. Donc, si je dois dire en une phrase, c'est un peu long pour le souffle, mais ça, c'est ça.
C'est un bon exercice.
Voilà, exactement.
Alors, comme tu le sais, l'émission s'appelle « La carte et le territoire ». Et tu sais déjà quelles questions je vais te poser.
Eh oui.
Quelle est ta définition du mot « territoire » ?
Alors, quand je pense à « territoire », je pense à un territoire géographique avant tout, avec une délimitation. Je vois effectivement les cartes avec le petit liseré rouge. Mais pour moi, j'ai l'impression que cette délimitation, elle est faite par la pensée des humains, parce que c'est les hommes qui quadrillent le territoire et non les territoires qui sont quadrillés d'eux-mêmes, parce que je pense que les territoires sont libres et sans frontières par essence. Voilà, donc il y a un peu une notion géographique, mais aussi de qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on insère dans ce territoire. Et il y a tout un imaginaire, des cultures, des animaux, des sons. Des plantes, une cuisine, une gastronomie, voilà, il y a plein de choses dans ces territoires.
On peut se plonger directement dans le bain des cartes pour que tu développes cette idée de territoire dessiné par les hommes, enfin les humains, on va dire. Ou j'ai aussi envie de te poser la question, est-ce que tu penses qu'il y a des territoires esthétiques et, au sein du monde des arts?
Oui, bien sûr. Et je pense que c'est pas forcément nous qui les choisissons. Je pense qu'il y a les territoires esthétiques qui sont délimités par les institutions. Et notamment, en tout cas en tant qu'artiste, on est souvent, dans notre pratique professionnelle et aussi pour survivre financièrement, on va postuler à des dispositifs. Et donc du coup, là, il y a plein de territoires. Je veux dire, si on fait de la création radiophonique, on va répondre à un appel pour la création radio. Si on fait de la musique, y a différentes esthétiques. En écriture, c'est pareil. Poésie versus prose, non-fiction versus fiction. Et là, on rentre dans une complexité, parce que j'ai l'impression que parfois, il faut faire rentrer l'éléphant dans un petit quadrillage. Oui. Et j'ai souvent ces discussions-là avec des amis. Notamment, je me souviens d'une conversation avec une amie danseuse qui disait « Ah, mais j'ai dû adapter mon projet, mais j'ai tout déformé, du coup, je me suis éloignée de moi-même, Et puis après, elle était là « Bon, à partir de maintenant, je m'adapte plus, je fais mon truc et basta. » Voilà. Alors, en l'occurrence, je crois que c'était pour vendre une date et c'était quelque chose qui était entre la danse et le théâtre. Et elle vient de la danse et elle l'a plus insisté sur le côté théâtre. Et du coup, après, elle n'était pas contente. Enfin, voilà.
Oui, en fait, tu sais, mais c'est pas satisfaisant de mettre
ça, de l'eau dans son vin. C'est ça, mais c'est plus que ça te perd un peu toi-même parce que t'as un principe de création à l'intérieur de toi et en fait tu dois répondre pour rentrer dans les cases et du coup ça peut dénaturer les projets. Après il faut être malin et essayer de tourner ça à son avantage, je pense.
Et toi t'as une discipline mère ?
Est-ce que j'ai une discipline mère ? Non, je pense pas justement et c'est un peu ma particularité, c'est que j'ai l'impression que je ne hiérarchise pas entre les différentes activités. C'est plus qu'il y a des temporalités où je vais me concentrer plus sur la musique ou sur l'écriture, mais c'est souvent par projet, donc ça tourne un petit peu. Après bien sûr il y a des mélanges et des rencontres. J'ai essayé de hiérarchiser dans la pile, mais ça n'a jamais fonctionné, donc voilà.
Donc il ne faut pas le faire, ça ne marche pas.
Ben, je ne sais pas, peut-être ça arrivera, mais ouais, voilà, c'est ça.
Je vais tout de suite t'inviter à prendre les cartes parce que quelque chose me dit que tu vas pouvoir développer chacune de tes activités artistiques avec cet outil aussi. Et différentes problématiques dont on a parlé en préparant l'émission aussi.
Eh bien, je peux parler déjà de là où je suis née. Bon, moi, je suis née à Paris, dans le 11e arrondissement. Mais je n'ai aucun souvenir de Paris étant petite, puisque après, mes parents ont déménagé en banlieue, dans les Yvelines, à Houille, puis Carrière-sur-Seine, je ne sais pas si tu connais.
Si.
Et donc c'est là que j'ai passé toute mon enfance, puis mon adolescence. Donc je ne me sens pas parisienne du tout, même si maintenant j'habite à Paris et que je suis une parisienne intégrée. Mais voilà, j'ai grandi donc à Carrière-sur-Seine, dans cette petite ville au bord de la Seine, fort sympathique, mais qui n'est pas non plus très active au niveau culturel. Donc après, quand vient le temps des études, on a un peu envie de partir vers la grande ville.
De monter à Paris.
Monter à Paris, exactement. Même si ça n'a peut-être pas le même sens si on vient de moins de 20 km de Paris que si on est du sud de la France ou de l'Est, mais voilà, mais quand même, voilà.
C'est là que tu as commencé ton parcours artistique ?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai été inscrite au conservatoire assez tôt, même à l'éveil musical. Parce que ma mère est musicienne, elle est violoniste et altiste. Et donc, elle nous a inscrits au conservatoire. Je me souviens des premiers moments en éveil musical où on faisait de la danse, d'ailleurs, que j'aimais beaucoup. Puis après, c'est devenu beaucoup moins fun avec le solfège. aïe. Voilà. Et puis, à 7 ans, j'ai choisi mon premier instrument, qui est le violoncelle, comme toi. Mmh. Voilà. Et je l'ai choisi parce que ma tante est violoncelliste et ma mère voulait que je fasse du violon et j'ai fait tut tut tut, ce ne sera pas le violon.
Je vais pas faire comme maman.
Non, pas du tout envie. Je veux le gros instrument là-bas et, parce que j'étais en admiration de ma tante et qui était ma marraine, enfin, qui est ma marraine. Et voilà, donc il y a eu ça et puis après j'ai fait tout un parcours en école de musique jusqu'à la terminale.
En musique classique, feuillard popper.
Exactement, j'ai mangé du feuillard, cette couleur jaune bien présente dans ma chambre. Et les études de popper aussi, exact. Mais il y a eu pas mal de changements parce que j'étais longtemps dans le conservatoire de Carrière-sur-Seine. Et puis après, j'étais un peu au Vésiné, je voulais changer de prof. Et puis après, j'étais au lycée Racine, on aurait réaménagé en musique en terminale. Et ça a aussi beaucoup changé, parce que je prenais des cours à Paris, j'ai commencé la trompette. Et voilà, donc j'ai pas mal voyagé. Et puis avant ça, j'étais dans un lycée avec une option musique, donc le lycée de carrière, qui s'appelle Les Pierres Vives, et qui a une super option musique qui est assez réputée dans le coin, mais je pense qu'elle est assez unique en France, pas sur le modèle des chats et des horaires aménagés, mais qui a une option musique accessible à tout le monde. Et si on est en L, enfin maintenant ces sections-là n'existent plus.
Ça nous rajeunit vachement.
Ça nous rajeunit pas, exactement. Mais il y avait une option lourde avec 6 heures par semaine. Enfin, moi, j'avais hyper envie de faire ça, mais mon père m'en a empêché. C'était un grand drame de mon adolescence. Voilà. Et, Et ça, en tout cas, les profs, il y avait deux profs à l'époque, ils ont été très déterminants dans mon parcours. Voilà. Parce qu'il y avait le conservatoire et il y avait le lycée, et c'était pas du tout la même approche. Et moi, oui, c'était beaucoup plus ouvert. On avait des cours d'histoire de la musique avec un des profs qui s'appelle M. Goncharov. Et moi, j'étais passée l'année du bac où on travaillait sur Jimi Hendrix. Ces cours-là, c'était vraiment ce qui me donnait... ce qui me faisait tenir la semaine, en fait. Le midi, on avait des répétitions. Il y avait plein d'ateliers, ateliers percussions, ateliers créa jazz. C'est comme ça que j'étais initiée au jazz et plus particulièrement à l'improvisation libre. Pour moi, le jazz, c'était l'improvisation libre. Après, quand j'ai fait des études de jazz, j'ai dit, ah non, c'est pas ça, en fait. Enfin, c'est pas que ça, en tout cas. Et personne ne fait de l'improvisation libre, mais bon. En tout cas, ça a été très, très libérateur. Et il y avait un autre prof qui était, lui, plus... qui était plus du côté de l'improvisation libre. Et effectivement, donc, j'ai fait cet atelier avec lui de créa jazz. Et puis, j'avais tous mes copains... Enfin, on était une petite bande de musiciens. C'était super. Voilà.
Et après, qu'est-ce qui se passe ?
Après, j'obtiens mon bac. Je change entre la première et la terminale. Je passe de Carrière-sur-Seine à Paris. C'est quand même un petit choc, quoi. Je devais me lever plus tôt le matin. Oh. J'étais en horaire aménagé. Et puis après, moi, je voulais faire une prépa littéraire avec option musique. Ou théâtre, mais c'était plutôt musique que je voulais faire. À Fénelon, exact. Donc j'ai été pris là-bas, j'étais trop contente, tout ça. Et en fait, en même temps, j'avais un de mes cousins éloignés qui m'avait parlé de Sciences Po. Il m'avait dit, tu verras, c'est la revanche des littéraires et tout. Et je crois que cette phrase-là m'avait plu. Mais je crois que j'avais pas trop compris le contenu. J'ai fait, je vais passer le concours des Sciences Po et tout. Et en fait, c'était tellement loin de moi. Enfin, il y avait un truc complètement abstrait. J'ai préparé ce concours-là alors que c'était pas particulièrement les matières qui m'animaient. C'était quand même plus les lettres et la musique. En fait, à l'époque... les concours étaient fin août, enfin, ça a totalement changé, mais donc du coup je m'étais projetée dans la prépa et puis j'ai passé le concours fin août pour Sciences Po et puis je me disais de toute façon je l'aurais pas, je savais pas, j'ai fait ça sérieusement, j'ai fait une prépa l'été, c'était un peu dur d'ailleurs, juste après le bac, t'as passé ton bac et il faut réenchaîner, waouh, et pour un concours qui est très très difficile et donc j'ai bachoté tout l'été et en fait je suis sortie du concours et je me suis dit mais en fait je crois que là j'ai bien réussi et que potentiellement je vais l'avoir. Et donc j'ai été prise, j'ai fait ma rentrée à Fénelon et au milieu d'un cours de français, enfin de littérature du coup, pas de français parce qu'on ne disait plus français en prépa, j'ai eu les résultats de Sciences Po et là j'étais dégoûtée parce que je savais que ma famille allait mon père allait me pousser là-dedans, que j'allais pas trop avoir le choix, tout ça. Et donc finalement je suis quand même allée à Sciences Po et je me suis dit, j'avais coché une petite case au moment d'inscription administrative, option littérature. Et je m'étais dit, ça me fera un peu genre l'équivalent de la prépa, entre guillemets. Et puis comme il va y avoir le côté littéraire, ça va quand même être sympa. Mais en fait, c'était pas sympa, je l'ai assez mal vécu. Mais je suis quand même restée 3 ans.
Une licence de Sciences Po Paris.
J'ai le bachelor, c'est pas une licence parce que c'est pas une université, mais c'est l'équivalent d'une licence. Ouais. Et puis je suis partie en 3e année aux États-Unis. Et ça, c'est important.
Ah bah oui, la fameuse 3A.
La fameuse 3A dont a parlé Ellie Nohan. Non, c'est les sciences pistes reconverties qui sont... Enfin voilà, bon, je ne m'identifie pas du tout comme sciences pistes, mais je déteste cette expression d'ailleurs, mais bon. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu tenue aussi, c'est qu'il y avait la petite perspective un peu piquante de la 3A et de partir à l'étranger. Qui n'était pas négligeable. Du coup, je suis partie à Hampshire College, qui est un liberal arts college dans le Massachusetts. C'est un collège très particulier aux États-Unis, qui a une pédagogie expérimentale. C'est un collège qui a été lancé en 1969 ou 1970, donc vraiment très hippie. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de major. Donc tu ne choisis pas de département, tu prends vraiment les cours à la carte et tu construis petit à petit... ta spécialité, ton parcours, et en quatrième année, tu fais ta thèse, tu fais un projet qui dure un an, qui serait un peu l'équivalent d'un mémoire, mais ça peut être un film, ou créer une pièce de musique avec un petit dissert à côté. Et du coup, c'était parfait pour moi, parce que j'ai vraiment pu... Je me suis éclatée. Je voulais étudier le cinéma, je voulais faire de la musique, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite dans le département photo-vidéo. Et puis aussi, là, j'ai commencé l'apprentissage du jazz... je prenais des cours avec un saxophoniste et c'était trop chouette.
Et toi, t'avais quel instrument à ce moment-là ?
Et là, en fait, en terminale, j'ai commencé la trompette, donc je faisais violoncelle et trompette. Et là, où ça avait été un peu compliqué de ramener mon violoncelle, je faisais surtout de la trompette à ce moment-là. Mm. Donc c'était super pour parce que la trompette pour le jazz,
c'est cool.
Voilà, Miles Davis, tout ça. Enfin, à l'époque, c'était j'avais une grosse passion sur Miles Davis, donc.
Donc un an aux États-Unis. Ouais. Ensuite, il faut rentrer.
Retourner
en master à Sciences Po.
Il faut retourner en master à Sciences Po. Et justement, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que j'étais tellement allée là où je voulais que du coup, j'étais là. Mm. Je pense que ça va être compliqué de rentrer. J'ai demandé une année de report à Sciences Po. Après, j'ai demandé une deuxième année de report. Et là, j'ai fait, on va peut-être falloir arrêter.
Peut-être jamais revenir.
Moi, j'ai pas du tout envie de revenir. Enfin, c'était cette espèce de casse-tête. Justement, j'essayais de rentrer dans la case. Et j'étais là, je pourrais peut-être faire un master de sociologie politique. Après, j'étais là, mais non. Enfin, pas moi, en fait. Enfin, j'ai vraiment envie de faire d'être dans la création. Et du coup, après, en fait, j'ai une période pas évidente parce que, en fait, j'ai tellement aimé le système américain. Moi, j'aurais aimé rester, pouvoir repartir, mais c'était très compliqué avec le prix des études. Oui. C'est juste délirant, en fait. Enfin, c'est 30 ou 40 fois plus qu'en France. Et si j'avais pu étudier un an en payant les frais de scolarité français, mais là-bas, c'était $43,000 l'année sans...
Juste les cours.
Juste les cours, voilà. En fait. Donc, t'as $10,000 en plus pour vivre.
Et encore, à $10,000, tu vis chichement.
Et encore tu vis chichement. Et je vivais chichement. Genre, j'avais très, très peu d'argent et tout. Mais par contre, les infrastructures sont incroyables. Il y a du matériel de dingue. Enfin, je veux dire, j'avais accès... J'ai réalisé des courts-métrages là-bas. Il y avait une audio room parfaite avec du matériel de pointe. On pouvait emprunter des caméras. Il y avait une salle de concert. Bon, je veux dire, après, tu rentres à la Sorbonne, tu fais...
Il y a des petits graffitis. Tu peux faire une photocopie ? Non.
Il y a des petits graffitis partout. D'accord. Bon, voilà. Et Sciences Po, par contre, c'est pour les riches. Il y a des forêts de Mac dans la bibliothèque. Voilà. Mais du coup, c'est intéressant aussi d'avoir navigué dans ces différents familles universitaires. J'ai vu beaucoup de diversité et ça forge aussi un regard critique, je pense. Et donc, du coup, pour revenir, je me suis réinscrite à la fac en littérature et j'ai fait une maîtrise de lettres. Et après, je suis rentrée au master de création littéraire à Paris 8. Et en parallèle, je me suis réinscrite au conservatoire. Je me suis dit, bon, fac... conservatoire, ça me paraît un bon programme qui me ressemble.
Et là, t'as quel âge, 21, 22 ?
J'ai 21, ouais. Ouais, c'est ça, 21, 22.
Et là, t'habites à Paris ?
Oui, alors au début, je suis retournée, j'ai vécu un peu... Alors mes parents se sont séparés, j'ai vécu un peu chez ma mère, et après, je crois, à 25 ans, j'ai eu mon premier, ou 24 peut-être, je sais plus. Non, 25, j'ai eu mon appartement à Paris. Et là, c'était le début de l'âge adulte. Enfin, du vrai, on va dire.
Et à quoi ressemble le vrai, alors ?
Le vrai âge adulte ?
Ouais.
Bonne question. Je sais pas. Justement, je me posais récemment la question, qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans l'âge adulte ? Je pense que ça se fait progressivement, parce que... En tout cas, le fait d'habiter toute seule, d'avoir mon appartement et que ce soit pas genre un dortoir ou un dorm aux États-Unis, oui. Dans lequel j'avais vécu, c'était un peu plus intimidant parce que moi je viens d'une famille nombreuse, on est quatre, j'avais l'habitude qu'il y ait beaucoup de bruit, beaucoup de vie, chacun fait ses petites activités et on se retrouve pour manger. Et là, Ça a été un peu difficile, mais après, au bout de quelques années, j'ai pris goût et j'aime beaucoup maintenant. Avoir mon petit espace, mon petit cocon, c'est moi qui fixe les règles. Voilà.
T'étais dans quel coin ?
J'étais dans le 10e arrondissement. Je suis toujours, j'ai encore cet appartement là maintenant.
Ah oui.
Ouais,
oui,
ça fait longtemps. Ouais.
Enfin longtemps.
Enfin ça fait un moment.
Et après ?
Ah, et après, oui, mais il y a même un... Mais j'ai oublié de dire que j'ai passé un an à Berlin, et ça, c'est quand même un territoire géographique oui. aussi important. Donc, j'ai fait mon M1, je voulais absolument... Je me sentais pas bien à Paris, j'avais envie de repartir, j'étais nostalgique de... j'étais triste d'avoir quitté les États-Unis, et tout le monde me disait, ah, l'Eldorado, Berlin, la créativité, tu vas voir, c'est très alternatif, tout ça... Moi, j'ai écouté les sirènes, hein, j'y suis allée. Et en fait, c'était très différent des États-Unis. Oui. Et donc, forcément, on n'a rien à voir. Enfin, bon. J'ai dû faire Berlin, post-soviétique. Je parlais pas allemand, j'ai dû apprendre une nouvelle langue. Voilà. Et en fait, là, j'ai refait du violoncelle à ce moment-là. Je me suis... Parce qu'en Allemagne, ils ont quand même des super dispositifs universitaires pour... la musique et bon moi j'étais à la fac en littérature et du coup il y avait des orchestres universitaires de très bon niveau et c'était super, on faisait du Beethoven, du Tchaïkovski, j'ai renoué avec la musique classique et c'était vraiment chouette.
Oui, alors que tu n'avais pas touché ton instrument depuis un
petit paquet d'années. J'avais repris au retour des États-Unis, j'avais repris le violoncelle. Voilà.
À ce moment-là, tu parles trois langues ?
Je parle déjà l'anglais, le français et j'apprends péniblement l'allemand. Mais au bout de 9 mois, je commençais à pouvoir faire des petites blagues en allemand, donc j'étais contente.
Ouais, pas mal.
Voilà, mais j'ai un peu tout perdu, j'avoue.
Et à ce moment-là, dans ta tête, quelles sont tes perspectives ?
Je me dis, est-ce que je m'installe en Allemagne ou est-ce que je rentre en France ? Donc j'avais un petit peu ce dilemme-là. Je me disais, potentiellement, je pourrais continuer à Berlin. Mais quelque chose, il y a une voix en moi qui me dit, non, Inès, genre, c'est pas... Il y a tout un système administratif à gravir, plus la langue. Bon, ça, je savais que j'allais me débrouiller, mais c'est quand même pas rien. Et surtout, je me suis rendu compte que j'étais quand même beaucoup plus latine. J'ai trouvé le climat rude, il fait très froid. J'ai trouvé que c'était une ville grise. Enfin, il y a des choses où c'est plus une sensation générale où j'étais pas... Autant aux États-Unis, j'étais toute voile dehors. Là, j'étais là... pas mal, mais non, non. Donc je suis rentrée en France et là j'ai pris un an en fait de réflexion, un peu en mode genre tu vas arrêter un peu les études, tu vas te poser, qu'est-ce que tu veux faire, tout ça. Je faisais juste de la musique, mais j'ai arrêté les études universitaires et après je suis rentrée en master de création littéraire. C'était chouette, mais pas besoin de parler en détail.
Non, mais est-ce que ça te donne une légitimité en tant qu'autrice ?
Ouais, c'est une très bonne question. Alors, c'est marrant parce que j'avais une approche assez utilitariste de ce master, c'est-à-dire que je voulais un master et je voulais un peu sortir du système universitaire, oui. Me dire, ok, j'ai casé...
J'ai Bac plus 5.
J'ai Bac plus 5, ça me rassure pour trouver peut-être un jour un travail, je sais pas. Et sachant que je voulais faire... J'ai plutôt dédié ma vie à la création, c'était sûr. Mais je me disais, ce petit tampon-là sera utile. Ou pas d'ailleurs, mais ça me rassurait intérieurement. Et en fait, oui, ça m'a donné l'autorisation symbolique d'écrire. Et ça, c'est hyper important. Je pense que si j'aurais pu ne pas passer par ce master-là et faire autre chose, en fait, parce qu'il y avait d'autres choses qui se présentaient à moi. Mais je vois que rétrospectivement, c'est ce qui m'a... ce qui a fait que j'ai commencé à creuser mon petit trou, et puis il y avait le retour des profs, qu'est-ce que tu produis en 2 ans, et oui, ça m'a aidé.
Et ouais. C'était encourageant.
C'était encourageant, mais il y avait des côtés pas encourageants aussi. Enfin, c'était justement, pour reprendre les idées de territoire, on était dans le territoire du roman, c'est-à-dire que tous les profs ils avaient une pratique du roman, et donc du coup, les gens disaient moi je veux écrire de la science-fiction. Où moi, je vais écrire de la poésie. Et là, les profs, ils étaient forcément... ils disaient « Ok, d'accord, mais ils savaient pas forcément... Ils n'avaient pas forcément les outils pour accompagner dans ces genres-là. » Même, ils faisaient de leur mieux. Bon. Et en fait, on avait des séances de lecture, on devait écrire des choses. Et toutes les semaines, on devait partager et on devait lire nos camarades, faire des retours et tout. Et je trouve que c'était un exercice assez difficile, en fait. Je ne l'ai pas super bien vécu, pour être honnête.
Oui. Les formateurs aussi, avec le recul ?
Oui, je ne sais pas. Oui et non. J'avoue, je suis assez mitigée. Mais je pense que j'étais dans une période où j'étais assez bloquée parce que j'avais des résistances avec le fait d'apprendre à écrire, entre guillemets.
Oui.
Mais ça, c'est très français aussi. Autant aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, il y a des formations en creative writing qui existent oui. depuis très longtemps. Mais en France, on a l'imaginaire de l'écrivain ou l'écrivaine...
qui est bouffé par son envie
d'écrire. Qui écrit à la bougie. Enfin bon, c'est l'imaginaire très 19e.
Très baudelairien.
Très baudelairien, exactement. Et du coup, forcément, on hérite un peu inconsciemment de ça. Et puis, je pense qu'il y a une forme de lâcher prise aussi, genre partager en public, alors que j'en avais pas forcément l'habitude, c'était pas facile. Et du coup, j'avais un petit blocage d'écriture, ce qui faisait que j'écrivais que des fragments hyper courts, Puis j'avais un prof qui me disait « Inès, tu pourrais écrire des trucs un petit peu plus longs, non ?» Puis la deuxième année arrivant, et j'étais là, ok, tu vas pas sortir de ce master en n'ayant rien produit, en n'ayant rien donné. Mais en fait, comme j'étais au conservatoire à côté, et puis je suis rentrée dans une compagnie de théâtre, on était tout le temps en résidence, en déplacement et tout. En fait, le master, c'était qu'une partie de ma vie. Et du coup, les journées font 24 heures et j'avais techniquement pas beaucoup de temps pour écrire. Mais la deuxième année, j'ai dû dégager un peu du temps pour vraiment plonger dans l'écriture. Et c'est là où je me suis plus rencontrée dans l'écriture. Et ça a été assez beau, je pense.
Ouais. Oui, donc mine de rien, l'écriture, comme tout travail de création, c'est déjà du temps, en fait. Seule devant ta feuille.
C'est avant tout du temps, ouais.
Et de l'errance.
Ouais, de l'errance, du lâcher prise, c'est une forme, il faut être dans un espèce d'état un peu où tu fais confiance à ce qui va sortir, mais c'est pareil en musique, quand tu fais une improvisation ou quand tu composes, je pense. Après, c'est pas les mêmes médiums, mais fondamentalement, je pense que dans le cerveau, il y a des choses un peu similaires qui se passent. Voilà.
Et la musique, à ce moment-là ?
À ce moment-là, je faisais du violoncelle et j'ai commencé et de la trompette. Alors, j'ai eu toute une phase un peu de crise sur l'instrument. Genre, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en musique ? Et j'ai eu une phase d'exploration où j'avais envie de faire du piano, j'avais envie de faire la batterie. En fait, j'étais très intéressée par la rythmique jazz. C'était piano, basse, batterie. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, là, je suis pas dans les bons instruments. Je me suis dit, est-ce que mon premier instrument, c'est quand même le violoncelle avec qui je m'étais construite. Mais je sentais que je ne voulais pas avoir... j'allais pas avoir de parcours en classique. C'était pas... Je le sentais pas. Je voulais pas passer de concours et tout. Et c'était vraiment... le jazz et les musiques actuelles qui m'intéressaient et vers lesquelles je me sentais appelée. Et donc, j'ai opéré une transition vers les contrebasses. Ça a été une espèce d'apprentissage, de réapprendre, passer d'un accordage de la quinte à la quarte. Ça a été... wow, c'était très difficile.
Oui.
Parce que tout ton cerveau, toute la manière dont j'avais construit...
Tu phrases en quinte, quoi.
C'est ça, j'avais l'habitude d'avoir l'accordage du violoncelle, et là, il fallait passer en quarte, ce qui a ses avantages, d'ailleurs, mais au début, c'était un peu troublant pour le cerveau, et puis, bon, au bout d'un moment, on reconstruit les circuits neuronaux, voilà.
Oui, mais c'est vrai que ce qui est ambigu quand on passe à la contrebasse, c'est que c'est quand même aussi très proche du violoncelle, et donc, il faut... c'est pas comme quand t'es sur un total nouvel instrument.
Non, pas du tout.
Où t'acceptes que rien ne va être instinctif. Là, il y a quand même le réflexe, articulation de main gauche, archer à la main droite. Mais le sol est pas en phase du ré.
Enfin, c'est ça, ouais.
Dans du grave vers l'aigu.
Ouais.
Parce que si, dans l'autre sens, du coup. Mais...
c'est ça. Oui, parfois, j'étais là. Est-ce que c'est l'accord de la ou l'accord de sol ? Oh mon Dieu !
Oui.
Il y a vraiment une espèce de mini-temps dans le cerveau.
Oui.
Voilà. Mais du coup, ouais, je suis encore en train de, tu vois, de m'approprier la géographie, la territorialité de la contrebasse. Mais ça va, c'est de plus en plus fluide. Et au début, on est un peu confiné dans le grave. Et maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à beaucoup plus naviguer sur le manche et aussi de la gauche vers la droite. Ça, j'avais
Oui.
du mal au début. Et maintenant, c'est beaucoup plus fluide, c'est chouette.
Est-ce qu'il y a d'autres points dont tu as envie de parler ou est-ce que je peux passer à une autre question très vaste?
Non, tu peux passer à une autre question très vaste.
Je voulais te demander quel est ton rapport à l'espace public
Oui.
et quelle a été son évolution?
Là, on va arriver sur le point hyper cousu. Ding, ding. Oui, donc j'ai eu des traumatismes sonores en 2020 et 2021. Donc à la sortie de mon DEM et de mon CPES en jazz, parce que j'ai fait ce cursus-là après avoir fini ce fameux master à Paris 8. Et en fait, ben, ça a été un gros, gros choc dans ma vie parce que. Ben, tout d'un coup, enfin, progressivement plutôt, parce que ça s'est pas fait d'un coup, le son me faisait mal. Donc j'ai commencé, je ne supportais plus le son de la batterie pour des répétitions. Et c'était assez à une jam que je me suis fait mal, hein, au baiser salé. J'étais montée chanter Butterfly de Herbie Hancock. Et c'était, j'avais la batterie qui était à moins de 50 cm de mon oreille. Et là, j'ai senti comme si j'étais transpercée. Enfin, genre que mon oreille gauche était transpercée. Après ça, j'ai eu des douleurs. Et puis ça s'est un peu apaisé. J'ai repris la musique tranquillement. Mais je sentais que ça me tapait très vite sur les oreilles quand il y avait des bœufs dans les caves, ou même informel à des soirées avec des musiciens. C'était un peu dur. Ça a commencé comme ça. Puis après, le casque me gênait. Genre, j'avais fait un enregistrement au conservatoire à Boulogne. Et je me disais, oulala, là, c'est pas normal. La prise casque me gêne. Enfin, j'ai une douleur dans l'oreille. Là, ça a commencé à vraiment m'inquiéter. Et puis, bon, après, il y a eu d'autres chocs derrière. Et en fait, là, ça fait 2 ans et demi que ça m'embête vraiment. Là, je suis en train de remonter la pente, mais il y a un moment donné où j'ai été complètement confinée à l'intérieur de moi-même, pour reprendre un peu les termes du confinement qu'on a vécu collectivement. Mais en fait, c'est un peu comme si moi, ce confinement, il s'était prolongé à la sortie du Covid. Et c'est ce qui a fait que ben, j'ai dû renoncer à faire des concerts un temps. Et là, je reprends la création musicale petit à petit, mais avec ce nouveau rapport au monde, enfin, ça m'a beaucoup changé à plein de niveaux en fait. Et effectivement, l'extérieur, c'est devenu, enfin, et la ville en particulier, très bruyante avec les klaxons, les sonneries de métro, les rails stridents. C'est difficile et éprouvant pour moi. Quand c'est trop dur, il y a des moments où je fais que du vélo dans Paris. Là, de septembre à décembre, ne prenais pas les transports en commun parce que je ne supportais pas. Ça me déclenchait des crises, quoi.
Tu peux décrire une crise, savoir à quoi ça ressemble?
Ouais, alors je fais la forme qui s'appelle l'hyperacousie douloureuse. Il y a différentes hyperacousies, pas forcément douloureuses, mais ça gêne forcément. En fait, ben, typiquement, je vais aller. Il se passe un événement sonore, donc imaginons. Je vais aller à une soirée, donc il y a du brouhaha, il y a la musique, il y a les gens qui parlent. Bon, normal, quoi. Et ça va être trop pour mon cerveau. Donc, au début, je vais avoir un petit signe d'alerte. Je sens que dans mon oreille, je sais pas, ça, j'ai une gêne ou c'est un peu d'irritation. Ça se met un peu à chauffer. Donc là, soit je décide de rester dans cet espace, soit je pars. Et j'essaie de partir au bon moment. Et souvent, après, j'ai des acouphènes qui montent. C'est ce qui s'appelle des acouphènes réactifs. J'en avais depuis très longtemps, mais je pensais que c'était normal. C'est-à-dire que quand je sortais d'un concert, j'avais les oreilles qui faisaient chut, et j'étais là, bon, bah, c'était un peu fort, faut que je fasse attention et tout.
Sauf qu'en fait, c'était les premiers signes d'alerte.
C'était déjà des signes d'alerte, mais je les avais depuis très longtemps, depuis, je sais pas, peut-être mes 17 ans, 18 ans. Et ce qui veut dire que j'étais déjà très sensible, mais je pensais pas que ça pouvait dégénérer, en fait. Et après les acouphènes, souvent la douleur elle vient à retardement, ça peut être le soir ou le lendemain même. Par exemple, hier je suis allée voir un spectacle et j'ai un peu dépassé ma limite, on va dire, sonore. Et je suis entrée, j'avais des petits acouphènes et ce matin j'avais un peu mal. Voilà, mais c'est pas là, je peux pas dire que j'ai vraiment une crise, mais c'est un début de. Début de crise, on va dire. Ouais.
Mais la prise en charge, elle existe ? Il y a une vraie écoute maintenant sur ce type de traumatisme ?
Franchement, non. mais j'ai eu une espèce d'errance médicale assez longue. Parcours médical, en tout cas, où tu vas chercher des informations. J'ai cherché le spécialiste en France. Le spécialiste, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, à Paris, il y a un professeur qui est spécialisé dans l'hyperacousie. Il m'a diagnostiqué. Donc le diagnostic, ça rassure quelque part parce que tu te dis « Ah bah, ok, c'est pas juste moi. » Parce que tout le monde te dit « C'est dans ta tête. » Non, en fait, non, c'est pas dans ta tête, c'est dans ton corps.
Et puis ta tête, c'est ton corps aussi.
Et puis ta tête est ton corps aussi, exactement. Donc ne sais pas, enfin voilà. Ouais. Mais quand les gens comprennent pas, souvent c'est un peu facile de réduire à des choses psychologiques. Non, c'est compliqué. J'ai vu beaucoup d'ORL, j'ai vu plein de médecins et... Et là, j'ai enfin trouvé un médecin, mais il est en Belgique, figure-toi. Donc, j'ai fait l'aller-retour pour aller le voir assez récemment. Je suis enfin contente, mais ce qui me fait du bien, c'est son écoute. Pour le coup, il expérimente des choses. Alors, j'ai eu une injection dans les oreilles d'anesthésiant pour voir si ça fait bouger l'hypersensibilité ou pas. Mais il n'y a pas... J'étais dans une phase où j'allais mieux, donc c'était difficile de mesurer. Il a testé aussi des injections de Botox, mais là, il m'a confié qu'il trouvait que ça n'était pas probant, donc je ne vais pas faire d'injection de Botox dans les oreilles. Voilà, et puis après, sinon, il y a toute la prise en charge, il faut faire la sophrologie, relaxation, tout ça, c'est important parce que ça crée une anxiété qui va auto-alimenter, puisque les oreilles, c'est quand même notre guide, pour faire, si on peut... parler d'un point de vue animal, entre guillemets, on a besoin de nos oreilles pour être en alerte.
Oui, pour nous diriger.
Si, c'est ça. Et puis, s'il y a un prédateur dans la savane ou dans la forêt, c'est nos oreilles qui vont nous alerter. Et la vue aussi, bien évidemment. Mais les oreilles, c'est le sens de l'alerte. Et donc, du coup, il y a une petite dérégulation dans mon cerveau qui se produit chez les hyperacousiques où, du coup, souvent, t'es un... on est en hypervigilance parce que le son devient danger. Donc, oui. Sachant que la vie, c'est quand même le son. compliqué.
Et, oui. Voilà. Et donc, tu fatigues et donc, t'as plus mal.
C'est ça.
Et c'est un cercle vicieux.
C'est ça.
Mais tu choisis quand même de vivre à Paris. Parce que je reviens à cette idée d'espace public, espace bruyant. Ouais. Et cet espace public, surtout à Paris, qui est vraiment, dès que tu commences à regarder, quasiment inadapté pour toutes et tous.
Ouais. Alors c'est des sujets santé publique, le rapport au bruit. Je suis même allée jusqu'à publier un article dans Slate sur l'hyperacousie. Donc j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, sur la pollution sonore en fait dans les villes. Et c'est quand même un sujet de recherche hyper intéressant, enfin à plein niveau. Et qui a des conséquences sévères sur nos organismes, hein, c'est sûr. Alors, je choisis de vivre à Paris, oui, mais parce que j'ai la possibilité de m'échapper très facilement. Je peux aller voir ma famille en banlieue, en Bretagne aussi, où je vais très souvent, dans les Côtes d'Armor. Et j'ai passé beaucoup de temps à la campagne. En fait, l'année passée, j'ai fait beaucoup de séjours... Je suis allée chez une amie qui a une ferme. J'ai découvert des endroits, des lieux culturels alternatifs où j'ai fait des petites résidences, tu vois. Et du coup, je me suis posé la question de déménager, mais pour l'instant, c'est pas encore d'actualité.
Mais tu sens que c'est vers ça qu'il faudrait aller ou c'est un pansement sur une jambe de bois ou c'est...
J'ai des grosses attaches à Paris avec mes amis et tout ce que j'ai construit là, parce que j'y suis depuis 10 ans. Et... En fait, idéalement, mais ça, c'est un truc... enfin, c'est une solution de riche. Hein. J'aimerais bien avoir un petit appartement à Paris et ma grande maison à la campagne, au bord de la mer, tant qu'à faire. Voilà, c'est voilà. Ça mon rêve. En tout cas, oui, je pense que j'aimerais bien garder un pied à terre à Paris, mais je me suis posé la question de déménager dans des endroits plus calmes. En fait, il faudrait que j'ai une raison professionnelle. Si j'ai pas de travail ou si je connais personne, ça va être difficile de me projeter. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des initiatives contre la pollution sonore ?
Y en a, parce que figure-toi que dans mon quartier, et j'étais contente, enfin contente, je sais pas, mais sur ce qui était placardé dans mon immeuble, il y avait écrit « Nous allons installer le premier capteur sonore du quartier ou de la ville de Paris, je ne sais plus. » Mais donc, ce qui veut dire que c'est quand même un sujet qui est présent quand même... dans les politiques publiques, même si c'est pas très au-devant, mais il y a quand même quelques initiatives.
Quels sont les arguments qui sont avancés
sur la pollution sonore?
Oui.
Ben, en tout cas, il y a eu un rapport de l'ADEME qui disait que, en fait, on perd des points de vie par exemple... on est exposé au bruit toute la nuit. S'il y a du trafic qui passe en bas de notre fenêtre,
oui.
Alors, au début, on va avoir des insomnies, genre « Ah, tiens, j'entends toutes les nuits les voitures qui passent, non. » Après, le cerveau, il va être dans une deuxième phase d'adaptation, donc on va réussir à dormir parce qu'il va couvrir, il va trouver une stratégie pour quand même dormir. Mais en fait, la qualité va être altérée du sommeil, et ce qui fait que ça va fragiliser les fonctions vitales, et sur le long terme, on peut perdre, genre, je ne sais plus, je crois que c'était peut-être entre 2 et 4 ans, c'est énorme.
Oui.
En fait, c'est beaucoup plus que le tabac, c'est beaucoup plus que la pollution de l'air, la pollution sonore. Donc c'est...
Mais voilà, personne ne le sait.
Mais non, personne ne le sait, tout le monde s'en fout. Enfin, et ce qui est fou, c'est que quand moi, je dis « Ah, bah voilà, j'ai de l'hyperacousie, tout ça », j'ai eu une avalanche de confessions de gens qui disent « Ah, mais moi aussi, je souffre, et j'ai des acouphènes, j'ai nan. » Et puis je me dis « C'est fou, on n'en parle pas, en fait.
Bon. » Oui, ça n'est, un non-sujet.
Non, c'est un non-sujet. Oui, puis c'est assez tabou aussi, en particulier chez les musiciens, parce que quand tu commences à dire « j'ai des problèmes d'oreilles », je pense que c'est quand même la hantise de tout musicien, c'est de devenir sourd ou d'être hyperacousique ou d'avoir des acouphènes, quoi. Donc, voilà.
Oui, et en même temps, on évolue dans un milieu où c'est normal de pratiquer avec des bouchons en permanence. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? Pour aller à un concert avec des bouchons, aller au ciné avec des bouchons, chanteuses avec des bouchons.
Oui, et puis en plus, on perd 50% de voix, 70% du plaisir. Enfin, quand j'ai commencé à avoir des problèmes, je me suis dit, je vais me fabriquer des bouchons en silicone avec des filtres, tout ça. Mais en fait, et puis allez, 1, 2, 3, 4, on joue. Mais là, genre, toute ma perception auditive, elle est amoindrie. J'entends pas du tout la spatialisation. Enfin, j'arrivais plus à jouer, quoi. Et je trouve ça problématique. Par exemple, genre, il y a 10 jours, je suis allée voir une amie jouer au théâtre. Et donc, c'était un spectacle très musical avec de la techno, une création en live. Et en fait... on distribue des bouchons à l'entrée en disant il va falloir vous protéger, ça va être un peu fort. Mais en fait, on peut juste baisser le volume.
Oui.
Enfin, je veux dire, on fait les choses à l'envers, en fait.
Oui.
Et puis surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas mettre de bouchons, donc ça va les impacter. Pas forcément sur l'instant T, mais sur le long terme. Et voilà, c'était beaucoup trop fort pour moi et j'ai eu mal après. Enfin, ça m'a fait une espèce de rechute. Voilà.
Parce que c'est trop fort pour tout le
monde. Mais parce que c'est trop fort pour tout le monde. Moi, j'ai une fragilité qui est avérée, mais ça peut arriver à tout le monde. Ouais.
Et donc, j'en reviens à cette idée de ton rapport à l'espace public. Donc, tu prends plus les transports,
ouais, alors là,
t'habites au maximum.
Là, je les reprends. Mais dès que ça redégringole, je prends le vélo. Mais quand ça va très très mal, je reste juste chez moi, en fait. Enfin, je sors pas parce que Je veux dire, prendre le vélo à Paris, c'est quand même s'exposer à des sirènes à peu près toutes les minutes, quoi. Enfin, franchement, je crois qu'un jour, je vais calculer le nombre de sirènes qu'il y a dans la journée. C'est juste délirant, en fait. Mmh. Ça, c'est pour moi, j'aimerais bien faire des pétitions ou écrire à mon député pour dire, en fait, il faut qu'il y ait une régulation ou un moratoire sur l'usage des sirènes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de circulation à Paris, et du coup, la solution, c'est d'appuyer sur le bouton pour dépasser tout le monde. Non, il faut faire quelque chose.
Ouais.
Ouais. Il n'y a pas besoin d'être hyperacoustique pour en souffrir, je
pense. Non, c'est insupportable.
C'est insupportable.
Parce qu'après, il y a l'autre question, en tant que femme dans l'espace public. Ouais. J'élargis.
Si comment je me sens par rapport à l'espace public. Ouais, c'est une question super vaste. Tu veux dire en termes de harcèlement ou pas forcément qu'on prend même socialement.
Oui, c'est une question très vaste.
En tant qu'artiste. Moi, alors, je me définis très clairement comme féministe, je ne vais pas m'en cacher. c'est très important pour moi.
Ding ! Autre volet.
Autre volet, oui, c'est vraiment. Il y en a eu beaucoup de sujets dont on n'aura pas le temps de parler, bien évidemment. Mais. Ma place dans l'espace public. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai beaucoup lutté contre tout ce que tu dis. En tant que jeune fille, on te dit attention, faut pas sortir trop le soir et tout. Mais alors, moi, comme j'habite pendant très longtemps, j'habitais en banlieue, je faisais les allers-retours pour aller à Paris. Ben, en fait, j'ai eu l'habitude assez jeune, de 18 ans, de faire beaucoup d'allers-retours tard la nuit dans le RER, tout ça. Et ça a inquiété un peu ma mère, mais je lui disais « Non, mais t'inquiète, ça va et tout ». Enfin, j'ai pris un peu un truc... j'ai une position plutôt combative, parce que je me disais « Attends, là, s'il faut que je me dise, je rentre à 9h, enfin, à 8h30, là, je fais plus rien, enfin, et puis je vais être enfermée dans ma banlieue où il se passe rien, donc... Donc voilà, non, j'ai pas... Voilà, après, j'ai eu des expériences... Mon violoncelle m'a sauvée d'un frotteur dans le métro. Enfin bon, des anecdotes un peu qui m'ont traumatisée. Voilà. C'était en heure de pointe et on était collés les uns contre les autres. Et là, je sens quelqu'un qui est en train de me toucher devant. Et au début, je fais « C'est moi qui fabule ?» Ou après, je dis « Ah, non !» Donc je relève la tête, le mec ne me regarde pas. Et là, j'ai fait « Waouh !» Et en fait, j'avais mon violoncelle sur le dos, donc je me suis retournée. Oui. Et du coup, il y avait une barre, et du coup, il ne pouvait pas me toucher. J'étais trop mal, enfin, c'était horrible. C'était vraiment terrible. Ouais. Mais bon, c'est pas mon rapport dans l'esprit. Voilà, ça, c'est le rapport au harcèlement. Je pense que en tant que femme, c'est dur quand même. Et du coup, ça fait qu'on peut gommer aussi ses attributs féminins. Enfin, moi, je peux avoir un côté très masculin. J'ai tiré de ce côté-là assez longtemps. Mais en fait, ce qui ne règle absolument pas les problèmes, c'est juste une forme de protection. Voilà. Et puis après, la place des femmes dans la création, je pense qu'on est une génération, j'allais dire pionnière. Mais ça me refait penser à, je crois, la discussion que tu avais eue avec...
Aliette
de Lalleux, exact. Où elle disait, c'est toi qui disais peut-être, chaque femme, chaque génération de femmes a l'impression d'être pionnière. Et j'allais dire, on est pionnière. Ouais. Mais en fait, il y a eu d'autres pionnières avant nous, dans les années 70 et même avant, Olympe de Gouges et compagnie. Et certainement d'autres femmes dont on ne connaît pas le nom, d'ailleurs, bien plutôt dans l'histoire de l'humanité. Les fameuses anonymes. C'était la phrase de Virginia Woolf. Mm. Oui, je pense qu'il faut lutter contre la dévalorisation, l'invisibilisation. Je pense qu'on a tendance à se réduire et j'ai encore du chemin à faire par rapport à ça, je pense. Mais ça évolue petit à petit déjà à mon échelle individuelle. Et puis, je vois aussi mes amis, eux, qui se réalisent pleinement, que ce soit dans la musique, dans le théâtre ou dans d'autres disciplines. Et il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de sororité. Et c'est super. Enfin, je me suis rendu compte quand même que dans ma vie, les musiciens ne me proposaient jamais de travail, par exemple. Ça a toujours été des défis. C'est des petits trucs comme ça. Au bout d'un moment, tu fais « c'est quand même bizarre !» Mais pas que en musique. Hein. Et du coup, je travaille aussi beaucoup avec avec des femmes, mais j'aime bien aussi travailler avec des hommes, mais pas n'importe lesquels. Voilà.
C'est devenu un filtre dans tes choix pro.
Un filtre ? C'est un filtre en termes de qualité relationnelle et aussi de conscience par rapport à ces discriminations-là et ces dynamiques-là. Je pense que sur le long terme, pour moi, c'est difficile d'avoir une collaboration ou de travailler avec quelqu'un qui n'est pas sensible aux problématiques de genre, même de classe, ou quoi. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Donc, je vais un peu faire un tri un peu naturel, quoi. Mais pour autant, je ne veux pas que ce soit... Enfin, c'est pas quelque chose qui m'enferme du tout. Enfin, je le perçois au contraire. Enfin, c'est plutôt un gage de qualité dans ma vie. Voilà.
Est-ce que tu as la sensation qu'il peut y avoir une convergence des luttes, finalement, entre pollution sonore et réduction du sexisme dans l'espace public?
C'est un vrai sujet, je trouve, parce que l'espace public, y compris sonore, il est majoritairement dominé par les hommes. D'ailleurs, il y avait un très bel épisode des couilles sur la table là-dessus, enfin, sur les hommes dans l'espace public. Et aussi sur la musique. Une réflexion que je me suis faite spécifiquement par rapport à la musique, c'est qu'il y a vraiment cette notion-là de... Alors, notamment dans le jazz et les musiques improvisées, mais aussi quand même dans les musiques actuelles, il faut jouer fort pour montrer ta puissance, ta virilité. Enfin, on est quand même obligé de faire ce parallèle assez évident. Voilà, qui fait le solo le plus long, qui fait le solo le plus fort, qui tape le plus fort sur sa caisse claire. Voilà. Et du coup, oui, la problématique du volume et de la pollution sonore. Après, j'adore cette musique-là, donc la critique, c'est une critique fine, quoi, mais il y a quand même ce rapport-là à interroger au volume sonore et et la question de la masculinité, ou plutôt de la virilité d'ailleurs, derrière, à soulever. Et je pense que je me la pose parce que je suis une meuf, mais je suis pas sûre que beaucoup de mecs se la posent, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ?
Je sais pas non plus.
Voilà.
On se la pose tout le temps.
Mais nous, on se la pose tout le temps. Voilà, en fait, ce que je trouve fou, c'est que quand t'es une femme ou une personne qui a une discrimination, parce que ça peut être une personne non blanche, toi, tu portes cette espèce de réflexion en permanence. Enfin, j'ai lu 1000 livres, écouté 1000 podcasts. Et en fait, quand j'ai une conversation avec quelqu'un qui ne se sent pas concerné dans ta chair, je me dis, on va pas pouvoir avoir une conversation. Enfin, si, bien sûr, on peut avoir une conversation, mais l'intérêt, il est beaucoup plus faible, en fait. Il se pose moins ces questions-là. Voilà, c'est tout.
Et il continue de jouer fort.
Et il continue de jouer fort. Mais jouer fort, c'est très bien. Ça vous fait du bien.
Non, mais tu vois, je pense aux femmes instrumentistes que je connais. J'ai pas l'impression que la recherche du volume sonore...
C'est
tu vois, ne serait-ce que quand on achète du matos, tu vois, je me dis rarement, ah ouais, ça envoie, c'est ça que je veux.
Il y a du gros son. Voilà. Ouais, d'ailleurs, j'ai écrit un texte qui parle de ça, donc je pourrais le dire, qui est très court. Je me suis dit d'un recueil de poèmes poésiques qui part de mon expérience de l'hyperacousie, où je parle du volume sonore, donc si tu veux, et de la musique, donc si tu veux, je peux le lire.
Ah ouais, bah ouais, carrément.
Ça va barder, claironnent les musiciens pour annoncer leur prochain gig. Quand j'entends cette expression, j'entends barde, et je pense au barde Assurance Tourix dans Astérix. Ça va barder, ça va chanter, ça va balancer de la poésie. Pas vraiment, non. Ça va barder ne renvoie pas à la musique, mais à une expression martiale. À la fin du 19e siècle, dans le jargon de l'armée, barder signifie que l'on est obligé d'accomplir une corvée, un travail pénible que personne n'a envie de faire. Un barde, c'est une civière. Et transporter les blessés était toujours une tâche ardue. En réalité, donc, on dit « ça va faire mal, ça va évacuer des blessés hors du champ ». Et ce mal serait censé nous faire du bien ? Pourquoi enveloppe-t-on toujours la musique de violence pour dire qu'elle va être puissante ? La force ne peut-elle exister sans douceur ?
Merci Inès. Voilà. Je pense que je vais mettre en exergue de l'épisode.
Ok. voilà, donc ça vaut la petite discussion qu'on a eue avant, je pense.
En tout cas, ça la développe bien.
Ça la développe.
Ça la synthétise.
Ça la synthétise.
En tant qu'autrice, du coup, ça c'est vraiment une question hyper niche et hyper précise, mais je voulais avoir ton avis sur l'écriture inclusive.
Ah oui. Pour moi, c'est pas trop un sujet, alors que j'ai l'impression qu'on en a fait 1000 articles. Je réécoutais quelque chose là-dessus récemment qui disait que l'écriture inclusive, c'est simplement une manière de faire plus court. En fait, imaginons, on dit musicien.ne.
Oui.
Et bien, en fait, normalement, ça se lit musicien-musicienne. Tu vas dire les deux. Mais maintenant, on reforme des mots. On va dire, par exemple, auteurice ou auditeurice, par exemple. Ça, c'est un peu nouveau, j'ai l'impression, pour le coup, dans la langue française. En fait, pour moi, c'est un non-sujet, parce que oui, je suis pour, bien évidemment. Enfin, et après, pour moi, la question, ça va être plus, est-ce que dans mes textes à l'intérieur, parce qu'il y a une différence entre écrire un petit texte de présentation ou un texte un peu administratif ou technique, où on va utiliser de façon assez factuelle l'écriture inclusive, notamment si on fait... par exemple, une offre d'emploi, on va dire « je cherche un batteur ou une batteuse ». Les batteuses, signalez-vous à l'accueil. Voilà, et en fait, il y a des statistiques qui disent que s'il n'y a pas cette écriture inclusive, ben, les femmes ne vont pas répondre, en fait. Oui. Donc oui, j'estime que c'est une nécessité parce que notre cerveau, il traite les informations. Donc s'il n'y a pas le féminin, ben, on va moins se sentir considéré. Donc c'est important, même du point de vue cognitif, et puis ça a les conséquences qu'on connaît. Voilà. Après, est-ce que j'utilise au sein d'un texte de poésie ou de prose l'écriture inclusive? Ça, c'est une question où j'ai un peu du mal à répondre. Il y a des poétesses qui le font et c'est leur choix. C'est juste que bah, c'est vrai qu'il y a le point médian, mais c'est pas la seule manière d'utiliser l'écriture inclusive. J'aime pas toujours qu'il y ait un point, mais c'est un côté un peu visuel. Voilà, j'ai des interrogations, mais je vais pas trancher là-dessus. Ça, c'est plus des goûts après, esthétiques, et comment je me positionne.
Mais en tout cas, ça peut être un outil littéraire. Ça peut être
Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, notamment, je me souviens, quand j'étais en master de création littéraire, il y avait une copine qui s'appelle Gouka Anne, qui est maintenant publiée chez Verdier, qui voulait écrire un texte où il n'y ait pas de genre. Et en fait, elle est coréenne et elle écrivait en français, donc il y avait déjà tout ce fait d'écrire dans une autre langue que sa langue maternelle. Et en fait, elle se rendait compte que c'était impossible avec le français classique, alors qu'en coréen, visiblement, c'était possible, parce qu'il n'y avait pas autant de marques du genre et du féminin masculin qu'en français. La volonté de mettre plus ou moins en avant le genre d'une personne ou qu'il y a un flou ou au contraire que ce soit hyper caractérisé, bah oui, ça fait partie du travail littéraire de construction, de présentation d'une tranche de monde, quoi. Ouais. Voilà.
Est-ce que tu connais Tiffen D?
Oui. Qui écrit au féminin inclusif. J'adore, je me suis tapé une énorme barre là-dessus à un moment donné. Je me suis dit, ah, pendant une semaine, j'écris et j'essaie, surtout à l'écrit.
Il faudrait.
C'est ça, et j'ai commencé à le faire avec un mec, un peu pour l'énerver, pour voir s'il allait réagir. Mais bon, ça l'a fait marrer, donc ça allait.
Ça commence mais en faisant marrant.
Mais ça me faisait, ça me faisait plus marrer moi que lui, je pense. Voilà.
Est-ce que pour toi, il pourrait exister un territoire idéal ?
Un territoire idéal ? Pour moi, un territoire idéal, c'est un territoire où les disciplines se rejoignent plus que dans les territoires qu'on connaît. C'est un pays de cocagne où on peut créer toute la journée et aussi... où on ait accès peut-être à la mer, à la montagne ou à une nature qui soit riche et avec laquelle on soit en dialogue et non pas en position de domination. Et ça, c'est des sujets aussi concernant l'écologie qui m'intéressent beaucoup. Voilà.
Ah bah justement, est-ce qu'il y a un domaine dont on n'a pas parlé et que tu souhaiterais évoquer ?
Bon, ça peut être l'écologie, si tu veux.
Qui rejoint la pollution sonore.
Qui rejoint la pollution sonore, tout à fait. Le champ écologique, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Bon, je ne suis pas la seule, bien évidemment. Et j'essaye de vivre... en tout cas, de me rapprocher de plus en plus et d'être alignée par rapport à ça.
Vers une certaine décroissance,
bah,
par
c'est
exemple.
Ça, une forme de décroissance. Et parfois, je suis un peu atterrée parfois de voir les musiciens qui tournent, qui sont un jour à Amsterdam, après à Berlin, après à Paris, après à New York. Enfin, en tout cas, ça me pose question. Je pense que c'est... J'espère que c'est une pratique qui va se réguler ou qui va être un peu plus... c'est ça qui va décroître. Après... il n'y a pas de jugement de valeur. L'époque, elle est en train de changer. Et je pense que les jeunes artistes qu'on est, j'espère qu'on sera plus sensibles à ces questions-là. Aussi au niveau des productions, faire du circuit court, des tournées courtes. Être un peu plus, peut-être un peu moins gourmand là-dessus. Et pourtant, je pense qu'on doit garder notre rapport... un rapport joyeux au voyage, au déplacement. Enfin, moi, j'adore voyager, mais j'ai d'ailleurs beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest aussi. En fait, maintenant, je prends moins l'avion parce que j'essaye de me dire, OK, quand il y aura un vrai déplacement ou quelque chose que j'ai envie, un vrai voyage loin, je le ferai, mais je ne vais pas faire ça tous les ans et tous les week-ends aller prendre un EasyJet à 50€ pour aller à Lisbonne, tu vois. Oui. Et pourtant, j'aimerais bien, tu vois. Mais du coup, j'ai pris le pas de aussi plus voyager en train, de découvrir la France. Et je suis vraiment en train de découvrir les différentes régions, départements. Et j'adore, voilà.
On en parlait avec Elinoa, c'est une question de modèle. C'est
ça.
Notre idéal de l'artiste qui réussit, c'est un artiste qui est booké jusqu'à 2027.
C'est ça.
Tournée US Tour, ensuite
mais je comprends,
Asian
ça.
Tour.
Asian Tour. Non, mais ça fait rêver. Et puis sur les réseaux sociaux, t'es en mode,
Ouais, c'est sexy, quoi. Et c'est ça le problème aussi.
Oui, mais en fait, je pense qu'il faut déconstruire tout ça. Vraiment, vraiment. Ouais. Il y a plein de manières de le faire. Des petits festivals, même des moyens festivals, il y en a. Puis on va toucher des publics différents. Et voilà, c'est pas parce que t'es pas allé, au Carnegie Hall.
Et encore, Carnegie Hall, c'est...
Oui, bon, là...
Pour les hyperacousiques, ça va.
Oui, en plus.
Lollapalooza.
Ouais, c'est ça.
Ce genre de festival.
Ou Love Green, ou les plus gros festivals, rock en scène et tout.
De toute façon, tout se rejoint, en fait. C'est plus petite salle, du son moins fort, une plus petite jauge, des gens qui viennent de moins loin.
C'est ça.
C'est ça qui est cool.
Non, mais, c'est beau. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent... Il y a beaucoup de gens qui redoutent une dictature verte. Alors, excusez-moi, on en est quand même super loin. C'est quand même pas une priorité du quinquennat. On est là pour pouvoir continuer à habiter sur cette belle planète, tout simplement.
On prend soin de chez nous,
de notre environnement, de nous-mêmes, des autres espèces. C'est aussi un souci... un care un peu large, quoi, tu vois. Un souci de soi et de l'autre.
Tiens donc, un truc encore très genré féminin.
Eh oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui se soucient aussi plus de l'écologie, et d'où le mouvement aussi écoféministe, ouais.
Justement, puisqu'on parlait de notre belle France, as-tu des lieux culturels à recommander? Pas forcément en France, mais je pense qu'il y en a. Des petites pépites.
Ok, je réfléchis. Là, moi, je pense à un lieu dans lequel je suis allée qui m'a fait énormément de bien, qui s'appelle La Colle. La Colle Bégat Theater, c'est porté par une compagnie de théâtre d'art de rue. C'est vers Manosque, en PACA. Et c'est une région absolument magnifique où il y a des champs de lavande partout. C'est vraiment l'abondance, voilà. Et, bon, j'aime beaucoup la Provence. Et en fait, c'est un endroit qui accueille des résidences d'artistes dans toutes les disciplines. Bon, il y a beaucoup de théâtre de rue, mais aussi du cirque, des musiciens. Et ils font des petites représentations sur place. Et c'est vraiment... c'est au milieu des champs. C'est dans une ancienne halte de transhumance, et donc c'est un très très vieux bâtiment, tout en pierre, et c'est magnifique. Et c'est un lieu qui est semi-communautaire, donc il y a plusieurs familles qui habitent là-bas. Et c'est un lieu culturel un peu alternatif, mais qui compte dans ce coin-là, et c'est ce genre de lieu que moi j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est... Et j'y suis allée quand je supportais plus Paris, que j'avais besoin d'être au calme, tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et après, sinon, d'autres lieux culturels que j'aime bien, ben moi j'aime beaucoup le Festival d'Avignon aussi. Ça c'est un gros festival.
Oui, mais c'est pas interdit.
Non, c'est pas interdit, j'ai un attachement, j'y ai travaillé, j'y ai joué, j'ai joué dans une pièce où je faisais du violoncelle. J'aime beaucoup le Festival d'Avignon, il y a une grosse richesse et en même temps c'est une grosse machine qu'on peut critiquer. Quoi d'autre ? Et après, les salles qui m'ont fait aimer le jazz, c'était Sunset Sunside, mais ça, c'est plus mon moi de quand j'avais 15 ans et que je montais à Paris écouter des concerts de jazz. Et j'étais là, waouh, trop bien. Voilà, maintenant, j'ai plus du tout ce regard-là, mais ça reste des lieux. Enfin, la rue des Lombards a été une rue importante dans ma géographie personnelle.
Et pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre répondre à ce genre de questions ?
Qui est-ce que j'aimerais entendre ? Wow. Bonne question. Je pense à un autre musicien hyper acousique qui a une démarche super intéressante qui s'appelle Thomas Bonvalet, le Selmar. Je ne sais pas si tu le connais. Qu'il aurait beaucoup de choses à dire. Il n'habite pas du tout à Paris, justement. C'est un musicien de la campagne. Et je trouve que c'est intéressant. Il habite à Ribérac, en Dordogne, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et
pas forcément musicien ou musicienne.
Ah, pas forcément musicien ou musicienne.
Ça, si tu penses que c'est des sujets...
Il faut que ce soit lié à la musique ou... Non, même pas forcément.
Tu peux élargir, t'as dit un musicien. Donc.
Ouais, je dis un musicien, je vais élargir à quelqu'un d'autre alors. Je vais dire un invité, je pense que ce serait peut-être un peu difficile à avoir, mais la réalisatrice Alice Rohrwacher, je sais pas si t'as vu, si tu connais son travail, qui a sorti un film qui s'appelle La Chimère.
Oui, ok.
Et,
oui, oui.
Et elle a un rapport au territoire, je pense, super intéressant dans son travail. Et ouais, elle vit à la campagne, en Italie, en Ombrie. J'ai découvert son cinéma assez récemment et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Son rapport à la terre, comment elle filme les espaces modernes et les espaces ruraux, le rapport au son aussi et à l'archéologie. Voilà. Mais elle est peut-être un peu connue, mais ça se tente.
Merci beaucoup, Inès.
Voilà.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité d'Inès sur inescoville.fr et vous abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous souhaite bon vent et à bientôt dans la carte et le territoire.